Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui n'a pas du tout peur de se remettre en question. Se remettre en question, c'est se renouveler, c'est avancer et c'est se développer. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Sana Bousbeye, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Chabark lala, Sana.
Ça va très bien. Merci de me recevoir dans ce podcast et j'ai hâte de commencer la conversation avec toi.
Alors moi aussi, hâte d'en savoir un peu plus sur vous, hâte de savoir qui est la femme derrière le nom, qui est la femme derrière la profession, quels ont été les moments les plus compliqués. C'est souvent ceux qui nous apprennent le plus sur nous-mêmes, sur nos compétences, même lorsque c'est la frustration qui arrive en premier. Alors justement, Vous êtes dans le digital et si vous deviez retenir dans votre vie, indépendamment du travail ou dépendamment à vous de choisir, ce moment clé qui fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, ce serait lequel ?
Alors, disons le premier moment qui a fait que je suis devenue la femme d'aujourd'hui, c'est probablement mon retour au Maroc. Je pense que ça a été un grand changement et bouleversement, pas forcément, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais un grand bouleversement dans ma vie. Après avoir passé quand même une dizaine d'années à l'étranger pour faire mes études, entamer ma carrière professionnelle, le retour au Maroc a été quelque part un peu chamboulant, on va dire. Il a fallu que je me réadapte en quelque sorte à la société marocaine, au code, à la culture. Et pourtant, j'ai vécu et j'ai grandi dans ce pays. Probablement parce que pendant ces 10 ans où j'étais en dehors du Maroc, c'est vraiment les moments, vous savez, entre 18 ans, on va dire, et 25 ans, c'est les moments quand même des périodes de la vie, des âges de la vie où on se construit, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir et donc forcément on change, on passe par une étape de changement et de transformation.
Alors quand on dit les codes, et je vais vous rassurer, vous n'êtes pas du tout la seule à me dire ça, beaucoup de jeunes femmes d'aujourd'hui reviennent sur ces fameux codes lorsqu'on retourne dans son pays d'origine et pourtant nombreuses sont celles qui ont grandi là, qui sont parties comme vous après le bac pour des études, une expérience professionnelle, revenir. L'adaptation est rarement évidente.
C'est ça, c'était la période d'adaptation, effectivement, c'est l'adaptation. Et bizarrement, c'est plus l'adaptation dans le milieu professionnel, autant dans le milieu, on va dire, personnel. Bon, à l'époque, voilà, on est jeune, on a sa vie sociale, on est épanoui. Dans le milieu professionnel, les codes dans les corporates à l'étranger et au Maroc étaient pour moi différents. Au Maroc, j'ai eu le sentiment... Justement par rapport à cette culture, par rapport à ces sociétés, qu'il fallait faire preuve davantage d'intelligence émotionnelle et qu'il fallait que je commence à apprendre cette langue finalement de l'intelligence émotionnelle, comment se comporter, comment influencer finalement ses équipes, ses collaborateurs, quels outils finalement utiliser pour influencer les personnes avec qui je travaillais. Et ça m'a pris quelques années, c'était pas quelque chose de aisé, disons, et ça m'a poursuivi finalement toute ma carrière, et c'est finalement un des principaux learnings dans ma carrière, c'est que l'expertise et le savoir et la connaissance et la compétence ne sont pas suffisants, même quand on excelle dans son métier. Ce qui est important aussi, c'est cette capacité de leadership, de conviction et d'influence auprès des parties prenantes, des personnes avec qui l'on travaille, qu'elles soient en interne ou à l'externe. C'est comment arriver justement à pas prouver, mais suggérer que vous avez de la valeur ajoutée à apporter et que les personnes qui sont en face de vous ont quelque chose finalement à y gagner.
Alors, pardon, juste de vous interrompre, Sana. Vous dites, j'ai dû comprendre le langage de l'intelligence émotionnelle. Moi, quand je vous écoute, je me dis, cette jeune femme avait déjà beaucoup d'intelligence émotionnelle puisque ça a été le capteur de l'environnement. Vous auriez pu, si vous n'en aviez pas, pas cette intelligence émotionnelle de saisir l'environnement, de vous dire stop, je ne peux pas rester en pilote automatique, les choses sont différentes ici, il faut que j'arrive à trouver les outils pour m'adapter, mais ça c'est preuve d'intelligence émotionnelle.
C'est ça, ça a été finalement le premier déclic, le fait de s'en apercevoir, de s'en rendre compte et de se dire qu'il va falloir que je modifie quelque chose dans mon style, que ce soit de management, d'interaction avec les autres. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivi dans mon autre expérience professionnelle, en tout cas dans mon deuxième cap de ma vie professionnelle, parce que j'ai intégré je suis partie d'une entreprise dans l'agroalimentaire d'une grande taille à finalement à une autre multinationale, mais dans la taille était on va dire il y avait plus réduite et donc au fait c'était une multinationale mais avec des codes de start-up à l'intérieur.
Et alors, peut-être justement pour apprendre encore davantage de votre expérience, ces moments de doute, parce que quand on n'a pas forcément les codes, qu'on se remet en question, etc., ça crée des moments de doute, ça crée de la frustration, c'est normal, c'est la réaction humaine et normale de on va dire de ce qui peut être perçu et considéré comme une menace extérieure. Ok, le fait d'arriver dans un environnement différent, etc., c'est de découvrir, c'est une surprise. Ça trigger des émotions un peu complexes au départ, mais après, vous les dépassez, vous les avez dépassées. Ces moments difficiles, parce que ces émotions, elles ne sont pas faciles à vivre, elles ne sont pas faciles à ressentir. Est-ce que parfois, on n'a pas envie de se dire, ben non, je agis comme je veux et c'est moi qui gère? Pourquoi je vous pose la question? Parce que pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là et qui se retrouvent à se remettre en question, ne pas avoir peur de la remise en question, ne pas avoir peur de se remettre en question et de se repositionner.
Oui, effectivement, la première réaction que tout humain va avoir, et de se dire oui c'est comme ça, je suis bonne dans ce que je fais et c'est les gens et c'est les autres qui ne comprennent pas. mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc en tout cas je l'ai compris le temps que ça m'a pris de le comprendre, c'est de se dire et ça je pense que c'est valable aussi dans l'environnement aussi personnel. C'est de se dire que je vis en interaction avec un environnement, avec des situations, avec des personnes. Et tout le monde, ne fonctionne pas comme moi, je fonctionne. Donc j'avais beau dire ce que je suis en train de t'expliquer, ce que je suis en train de t'apprendre, ce que je veux mettre en place, c'est au service de ton activité, au service de tes ambitions, de tes objectifs, c'est pas comme ça que ça passe. Donc très rapidement, j'ai compris qu'il fallait apporter de la preuve, ce qu'on appelle aujourd'hui la preuve finalement sociale, mais au sein des entreprises. C'est de dire, voilà ce que j'ai fait avec telle entité, avec telle équipe, avec telle direction. Voilà les résultats que ça a donné. Est-ce que tu veux embarquer dans la même chose? Est-ce que tu veux atteindre les mêmes résultats? Et ça marche. Ça marche parce que tu embarques finalement, tu fédères les équipes à travers une preuve et c'est d'autant plus convaincant.
C'est justement, ça donne de la légitimité.
C'est ça.
C'est une forme de négociation en quelque sorte, subtile.
Au début, oui, mais après, ça dépasse la négociation. Finalement, je pense que j'ai trouvé le bon terme. C'est comment apporter plus de légitimité et de leadership dans ce que tu fais, ce que tu apportes. Et au fait, ça se construit. Le leadership et la légitimité se construisent. Ça prend du temps, mais une fois qu'on apprend à le faire, ben, ça devient des réflexes automatiques que l'on va utiliser autant dans sa vie personnelle que professionnelle. D'ailleurs, j'utilise même ces techniques avec mes enfants. Des fois, je les manipule de cette façon et ça fonctionne.
Alors, ça, c'est une grosse étape. Et ça a été aussi un bon moment de partage de vécu et de messages importants, de se repositionner, ne pas avoir peur d'être surpris par l'environnement. Alors, si on devait passer à une autre étape importante.
Alors, je vais prendre un raccourci. Parce que l'étape importante, on va dire, qui a fait la femme que je suis aujourd'hui, c'est passé récemment, il y a 3 ans. Donc, si je devais juste résumer un peu ma carrière, donc j'ai passé 15 ans à travailler dans le milieu du digital, principalement multinational. 15 ans de passion, 15 ans de curiosité, de découverte et d'engagement. Pendant 15 ans, ce métier m'a vraiment passionnée. Donc, jusqu'à il y a 3 ans, lorsqu'on me posait la question, Sana, c'est quoi ta passion ou quelles sont tes passions ? Et j'ai toujours répondu, le digital, mon métier. Et c'était vrai au moment où je le disais. Parce que j'avais beau chercher, faire des choses à côté, le digital me passionnait beaucoup. Et une des manières que j'ai trouvées pour faire vivre cette passion, au-delà et à côté de mon job à temps plein, c'était vraiment de m'engager auprès de l'écosystème du digital au Maroc. Je participais à des conférences, j'étais invitée comme speaker, j'aidais dans l'organisation de salons dans le domaine du marketing et du digital. Bref, j'étais très investie. Et puis, pendant l'été 2019, j'ai participé à un workshop qui était organisé justement par la fondatrice de l'association LinkedIn Maroc. Et le workshop s'appelait « Découvrez votre Ikigai ».
Découvrez votre ?
Votre Ikigai. Okay. Ikigai. Alors, je n'avais absolument aucune idée de ce que ça voulait dire, mais j'y suis quand même allée.
Et ça veut dire quoi, justement ?
je vais vous expliquer, ouais. Yasmine. En gros, l'ikigai, c'est une philosophie de vie au Japon. C'est venu d'une île qui se trouve au Japon et qui signifie raison de vivre ou raison d'être.
Ok.
Ça peut se résumer à c'est ma raison de me lever tous les matins avec joie et avec, on va dire, envie. Et durant ce workshop, on nous apprend une méthode qui consiste à se poser 4 questions. Qu'est-ce que j'aime faire, en gros, qu'est-ce qui me stimule, quelles sont mes passions, ce pourquoi je suis douée, quels sont mes talents, pourquoi on me complimente souvent. Troisième question, ce pourquoi je pourrais être payée. Mm-hmm. Et dernière question, qu'est-ce que le monde a besoin ?
C'est fou, mais
un monde meilleur. Oui.
Aujourd'hui, en scrollant sur mon Instagram, je tombe sur ce truc-là et les 4 cercles qui s'imbriquent. Le milieu, c'est en fait ce qui.
Voilà. Ouais. Le cœur du cercle, c'est l'ikigai.
C'est fou et c'est la deuxième fois que j'entends parler de ça. Donc, peut-être que c'est un signe, je devrais le prendre comme un signe et aller chercher.
Je crois beaucoup aux signes et aux synchronicités de la vie. Je t'encourage. Vivement à faire ce travail, c'est presque un travail d'introspection.
Ouais,
hein. C'est un travail d'introspection. Et au fait, voilà, le cœur de l'ikigai, c'est ce qui donne sens à votre vie, c'est ce qui vous rend plus heureux. Et vous savez exactement pourquoi vous faites ça. Évidemment, moi, ça m'a fait réfléchir. Et comme j'ai toujours été quelqu'un dans l'action, j'ai décidé de prendre du temps par la suite pour faire cet exercice avec beaucoup plus d'application, on va dire. Et le résultat de ce questionnement a été une révélation. Donc, à l'issue de mon Ikigai, j'ai décidé de lancer une plateforme dont la mission est de connecter et d'inspirer l'écosystème des professionnels du digital, du marketing, bref, dans mon domaine, et qui allait se décliner avec une application de networking, une application de matchmaking, une plateforme de contenu, une entreprise de formation et d'acculturation dans les métiers du digital. Ça, c'était évidemment la vision. Et je réalisais
mais donc, vous êtes resté dans le digital.
Oui, alors, justement, il y a eu un temps de pause. Donc, comme j'ai compris que je ne pouvais pas faire tout ça en ayant un travail à temps plein et des engagements personnels et en étant maman de deux enfants en bas âge à ce moment-là, je me suis dit, je vais appliquer la méthode des petits pas. Et au fait, la première étape de cette vision, c'était de lancer un livre d'inspiration digitale que j'ai justement déjà en 2019 appelé Digital Tribe. Digital Tribe qui est le nom de ma société aujourd'hui que j'ai fondée 3 ans après. Et au fait, ce livre, c'est un livre d'inspiration où j'ai fait appel à une vingtaine d'experts marocains et internationaux qui ont contribué chacun en écrivant une inspiration, en partageant leurs perspectives, etc. Mais j'ai dû m'arrêter là. Bon, vous savez ce qui s'est passé après 2020, le
COVID,
la pandémie, etc., etc. Et effectivement, j'ai mis de côté ce projet.
Mais entre-temps, vous étiez toujours dans le salariat ?
Oui. Donc oui, j'ai entamé ce projet pendant 5 mois en étant en parallèle, en étant toujours dans le salariat. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de temps et que, on va dire, que ce n'était pas sain, en tout cas moi, d'un point de vue santé physique, de m'investir autant, certes avec passion, dans des projets qui m'animaient et de poursuivre un rythme de vie qui, à l'époque, était déjà très, très, très soutenu. Mais la vraie révélation, c'est qu'à la sortie du confinement, comme tout le monde, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur ce qui s'est passé les mois qui ont précédé le confinement, sur vraiment tout ce dont a été privé l'humain avec un grand H, que ce soit en termes d'interaction avec le monde, avec l'environnement, avec la société. Et moi, personnellement, à titre personnel, j'avais qu'une seule envie, c'était de retrouver ma liberté, de souffler et de retrouver finalement ma vie d'avant. Et le hasard, alors je ne sais pas si c'est le hasard, a fait que j'ai poussé la porte d'un studio de yoga. Donc je troquais mes pauses déjeuner avec une séance de yoga. Au début, c'était une fois tous les 2 jours. Après, c'était devenu 3 fois par semaine, ensuite 5 fois par semaine, jusqu'à ce que je commençais vraiment à sentir une... Je ne pouvais plus m'en passer, ça me manquait. Et au fait, chaque séance de yoga me régénérait, m'apportait beaucoup. Et alléluia, j'ai trouvé ma passion. Donc j'avais enfin trouvé une passion, ce qu'on pouvait définir comme une passion, quelque chose dans lequel on va investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au fil des découvertes, des différents styles de yoga, d'enseignement, j'ai commencé vraiment à m'intéresser davantage, au-delà du côté physique, on va dire, du yoga, au côté spirituel, à la philosophie du yoga. Et évidemment, la passion, moi personnellement, elle me pousse toujours à aller plus loin. Et 2 ans après, j'ai décidé d'entamer une formation de 200 heures pour devenir professeur de yoga.
Ah, ok.
Voilà.
Mais alors, Digital Tribe aujourd'hui, ça devient quoi ?
Alors, Digital Tribe, donc 3 ans après justement ce projet, ce livre d'inspiration digitale, est une société de consulting qui accompagne les entreprises dans le conseil en stratégie digitale et e-commerce et qui va également offrir des formations innovantes pour aider les entreprises, les décideurs dans leur transition digitale.
Alors, moi, ce que je retiens de cet échange, en fait, c'est cette conscience de soi, self-consciousness que vous avez. En fait, c'est ça qui vous permet, c'est ça qui vous a permis d'aller également vers l'entrepreneuriat, d'oser l'entrepreneuriat et de savoir ce que vous vouliez faire dans l'entrepreneuriat, vous connaître véritablement.
Je pense que tu as tout bien résumé. Effectivement, cette connaissance de soi et cette confiance en soi, en se disant que dans sa tête, peut-être qu'il y avait un projet qu'on avait envie de réaliser, mais que la routine, les croyances, l'environnement te dit que bah, ce n'est pas le bon moment, que finalement c'est une prise de risque, que ce n'est pas le bon moment, mais en réalité, ça ne peut jamais être. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment n'existe pas. C'est à moi de le créer. Et effectivement, c'est une prise de risque. Mais avec le temps, quand on n'est pas habitué avec la prise de risque, forcément, ça nous fait peur. Mais avec le temps, prendre des risques devient de plus en plus facile, on va dire. On peut se dire finalement, on peut se dire je suis bien là où je suis, l'herbe du voisin n'est pas plus verte, mais justement cette étape de ma vie qui m'a permis de mieux me connaître et de savoir exactement comment je fonctionne, c'est ce qui m'a poussée finalement à me renouveler et d'avoir justement ce courage et cette audace de me renouveler, et ça m'apporte énormément d'énergie. Donc, cultiver cette habitude du changement, ne pas se laisser enfermer, sortir des cases, oui, ça fait peur. La peur et le doute sont là constamment, pas tous les jours, mais ils sont là. Mais j'apprends avec le temps à les transformer, on va dire, en moteur. Donc, si j'ai peur que mes résultats ne soient pas ceux que je recherche à obtenir, ben, je vais travailler davantage, je vais me former, je vais poser des questions, je vais aller chercher l'information là où elle se trouve, et je ne vais pas laisser justement cette peur ou cette prise de risque, la peur de prendre des risques, me paralyser. Je vais vraiment l'utiliser comme un moteur de transformation.
Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous dites stop, j'arrête, pas j'arrête tout, non, mais j'arrête de vouloir être la meilleure version de moi-même. C'est fatigant de vouloir être la meilleure version de soi-même.
Alors, cette expression de la meilleure version de soi-même, on l'entend beaucoup. Oui. On l'entend beaucoup. En ce moment, il y a une déferlante autour de justement dire aux gens « Soyez la meilleure version de vous-même ». Moi, personnellement, je n'aime pas trop. Alors, je ne sais pas comment le dire. J'aime pas trop cette expression. À un moment, ça m'a parlé, mais aujourd'hui, je la trouve un peu pas prétentieuse ou ambitieuse.
Contraignante.
Pour moi, il s'agit. Oui, c'est j'ai l'impression que c'est une expression qui pousse les gens et qui suggère que ben vous n'êtes pas
assez
bon aujourd'hui, soyez mieux demain.
Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais.
Alors que moi, j'ai envie de dire, je ne veux pas être la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même est celle que je suis aujourd'hui, avec les outils que j'ai, avec les ressources que j'ai, avec le mindset que j'ai, avec l'expertise que j'ai. Et mon objectif, c'est juste d'ailleurs, juste de devenir une version, on va dire, meilleure que celle que j'étais hier, on va dire. C'est l'action, c'est l'expérience, c'est les événements de la vie qui font qu'avec le temps, ben, on s'outille davantage et on a plus de ressources et on va utiliser ces outils et les ressources pour faire différemment. Donc, je ne veux pas être la meilleure version de moi-même. Je veux être la bonne version de moi-même, tout simplement.
Eh ben, ça, c'est super bien dit. Et sur ça, on va conclure. Merci infiniment, Sana Bousbehé, pour cette belle discussion.
Merci à toi, Yasmine.
Merci infiniment. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.